Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 9h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Xavier Besson.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Afrique Matin. Nous serons au Niger dans un instant, après la mort de 44 civils avant-hier dans la région de Tillaberi, tués d'après les autorités par des djihadistes qui ont attaqué une mosquée. Les militaires au pouvoir à Niamey promettent que cela ne restera pas impuni. Des djihadistes qui sont également soupçonnés d'être derrière l'explosion qui a coûté la vie à deux miliciens pro-Bamako hier dans le nord du Mali. Explication dans un instant. Dans ce journal également, la guerre au Soudan où l'armée nationale poursuit sa reconquête de Khartoum, la capitale. Après le palais présidentiel avant-hier, elle a repris le contrôle hier, entre autres, du siège de la banque centrale. Et puis nous serons aussi en Afrique du Sud. Après 5 ans de travaux, la bibliothèque municipale de Johannesburg vient finalement de rouvrir au public. Au Niger, on est ce dimanche en plein deuil national après la mort d'au moins 44 personnes avant-hier. Des civils tués, dit le gouvernement, lors d'une attaque imputée au groupe État islamique. Au moment de la prière, les djihadistes ont encerclé la mosquée du village de Fambita dans la région de Tillaberi avant d'ouvrir le feu. Dans cette zone dite des trois frontières, le Mali et le Burkina Faso ne sont pas loin. Les trois frontières où les attaques sont quasiment quotidiennes et où l'armée du Niger a multiplié ces derniers jours des opérations contre les éléments de l'EIS, l'État islamique au Sahel. Précision et explication avec Guillaume Thibault.
Dans le communiqué diffusé à la télévision nationale, les autorités militaires parlent d'un massacre d'une rare cruauté mené par l'État islamique au Sahel, puis indiquent « ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis, les auteurs seront traqués ». Choqué, Amadou Haruna Maïga, le coordinateur de l'Union nationale pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale, a rendu hommage aux victimes ce samedi lors d'un point presse.
Je présente mes condoléances les plus émues aux victimes tombées sous les balles des barbares. Mais ceux qui sont en train de perpétrer ces attaques-là, eux pour eux, Dieu n'existe même pas.
La zone de Fambita, village de la commune de Kokorou, est en partie sous le contrôle d'éléments de l'État islamique au Sahel qui mettent en place des barrages routiers pour prélever des taxes. Il y a 8 jours, dans le cadre de l'opération NIA, le Courage, l'armée a lancé 2 importantes missions dans la région contre ce groupe armé et annoncé via un communiqué avoir neutralisé 90 djihadistes, 9 soldats ont été tués durant ces combats. Amadou Haruna Maïga appelle toutes les forces vives du Niger à lutter contre les groupes armés.
La guerre là, ça concerne tout le monde. Chacun a ce qu'il doit faire pour soulager la souffrance des populations.
Suite à l'attaque de la mosquée de Fambita, les autorités militaires du Niger ont décrété 3 jours de deuil national.
Et Guillaume Thibault, le Niger, par ailleurs, avec un nouveau sabotage avant-hier soir contre le pipeline qui transporte le pétrole nigérien vers le port de Cotonou. Cette infrastructure régulièrement prise pour cible par des membres de groupes armés. Cette fois, l'attaque a eu lieu près du village de Mounseka, non loin de la frontière avec le Nigeria, sans que l'on sache ce matin qui en est l'auteur. Au Mali voisin, dans le nord du Mali, on apprend que 2 combattants du mouvement pour le salut de l'Azawad MSA, un groupe favorable aux autorités de Bamako, 2 de ses membres donc ont été tués hier par un engin explosif sur un axe routier. Là aussi, les djihadistes sont soupçonnés, nous explique Serge Daniel.
Selon le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA, l'incident s'est déroulé entre les localités de Ansongo et de Menaka dans le nord du Mali. Les 2 combattants tués appartiennent à un mouvement armé qui soutient le pouvoir de Bamako. Ils assuraient aux côtés de l'armée malienne la sécurisation d'un convoi de vivres. D'après nos informations, les mines posées par de présumés djihadistes ont également blessé des éléments de l'escorte assurant la sécurité du convoi. Dans la région de Menaka, le principal groupe djihadiste présent est l'État islamique qui contrôle plusieurs localités, recrute parmi les populations locales et tente jusqu'à présent sans succès de prendre le contrôle de la localité de Menaka. En face, comme adversaire sur le terrain, il y a l'armée malienne, Wagner, le groupe paramilitaire russe et le MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad, composé d'autochtones de la région. Si ces derniers appuient sur le terrain les actions des troupes régulières un peu plus au nord-est du Mali, un important groupe armé, le Front de Libération de l'Azawad, FLA, se veut indépendantiste et combat l'armée régulière. Serge Daniel, Dakar, RFI.
RFI, 9h35 à Kinshasa, l'armée de République démocratique du Congo dit prendre acte après le communiqué de l'AFC M23 hier. et les rebelles soutenus par le Rwanda qui se sont emparés de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu cette semaine et qui annoncent s'en retirer, disent-ils, pour favoriser, je cite, un climat propice au dialogue. Qu'en pense-t-on à Kinshasa? Il y a globalement ceux qui croient à cette option du dialogue, ceux aussi qui pensent que c'est une manœuvre de diversion de la part du M23. Analyse à lire dans un article sur RFI.fr. Quartier après quartier, voire même bâtiment après bâtiment, l'armée nationale soudanaise continue de reprendre le contrôle de Khartoum, la capitale, où ses ennemis, les paramilitaires FSR du général Emeti, eux, sont clairement en difficulté. Alors que des violents combats étaient par ailleurs aussi signalés dans la région hier du Darfour, dans l'ouest du Soudan, à Khartoum, François Mazet, l'armée du président Al-Burhan, a annoncé avoir repris possession notamment du siège de la banque centrale.
Les succès symboliques s'enchaînent pour le général Al-Burhan dans la capitale, dévastée par deux années d'un conflit civil si brutal qu'on ne peut en estimer précisément les pertes humaines. Ce samedi, le porte-parole de l'armée nationale, le général Nabil Abdullah, a annoncé dans un communiqué des progrès ayant mené durant la nuit à la reprise de plusieurs bâtiments de Khartoum, dont la Banque du Soudan, le siège des services de renseignement et le musée national. Ces prises font suite à celles du palais présidentiel officialisées la veille et accompagnées comme à chaque fois de vidéos triomphante diffusée sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, l'armée nationale a pris un ascendant très clair dans la capitale, mais plusieurs quartiers restent entre les mains des FSR de son rival, le général Emeti. Dans le même temps, des combats se poursuivent également au Darfour. Selon des acteurs de la société civile, au moins 45 personnes ont été tuées jeudi lors d'une attaque des paramilitaires contre la ville d'Almala, au nord Darfour. Les paramilitaires qui avaient affirmé avoir encerclé et pris cette ville, faisant plus de 380 morts ennemis.
Et ce matin, on signale des bombardements de la part des FSR sur Omdurman, la ville jumelle de Khartoum. Et au Soudan du Sud, c'est par crainte d'un conflit à grande échelle que l'Allemagne annonce fermer provisoirement son ambassade à Djouba. La chef de la diplomatie allemande estime même que le pays est à nouveau au bord de la guerre civile. Ces dernières semaines, des combats ont eu lieu notamment autour de la ville de Nasir, près de la frontière avec l'Éthiopie. Affrontement entre l'armée sud-soudanaise et une milice, la White Army, présentée comme proche du vice-président et opposant Riek Machar.
RFI.
5 ans de fermeture appartiennent désormais au passé. En Afrique du Sud, à Johannesburg, la bibliothèque municipale a enfin rouvert avant-hier. Elle qui avait été fermée en 2020 à cause des restrictions liées au Covid, elle était restée porte close depuis pour d'importants travaux de rénovation, notamment de mise aux normes de sécurité. Certes, aujourd'hui, tous les travaux ne sont pas encore complètement finis, mais au moins, la bibliothèque a rouvert. Reportage de Valentin Hugues.
Que serait une bibliothèque sans ses étudiants? Le jour de la réouverture, certains sont donc là, impatients de pouvoir entrer après 5 longues années d'attente. Domizo a 17 ans et porte l'uniforme de son lycée.
Je suis très enthousiaste. De l'extérieur, l'architecture de cette bibliothèque est si impressionnante qu'elle laisse entrevoir tout le savoir qu'elle renferme. Et sa fermeture a été un obstacle pour de nombreux étudiants qui n'ont pas les moyens d'acheter les livres.
Raison pour laquelle des associations se sont battues pour la réouverture. Flaubert est la fondatrice de Johannesburg Héritage.
Nous avons donc organisé cette grande manifestation l'année dernière et tout d'un coup, nous avons été invités aux réunions avec les parties prenantes. Et à chaque fois, on demandait à quand la réouverture, parce que l'accès public à l'information fait partie des droits de l'homme.
À l'intérieur, l'engagement de sa fondation est salué par le maire de la ville. Ensemble, ils parcourent les lieux, le regard émerveillé, guidé par Temba Matibé, président d'une agence de développement en charge des infrastructures.
On voit les tuyaux rouges pour les incendies en cas de départ de feu, l'eau arrive automatiquement. Ici, au plafond, vous pouvez voir que tous les câbles électriques sont blancs, propres. Ils ont été changés.
Une rénovation à 4 millions d'euros, mais pour l'instant, l'escalier est encore condamné, car le premier étage n'est pas encore prêt. La réouverture complète aura lieu au mois d'août. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Et puis les sports, l'actualité sportive ce dimanche matin, c'est du football avec les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. 2 matchs hier, 2 matchs nuls, 0-0 entre le Sénégal et le Soudan et 2 partout entre le Togo et la Mauritanie. Aujourd'hui, 2 rencontres sont prévues, Kenya-Gabon et Eswatini-Maurice. Alors qu'en fait, pour l'essentiel, la plupart des autres matchs se dérouleront demain et après-demain, 9h40, ici à Paris. Passez une excellente journée à l'écoute de la Radio Mondiale.